Masrèt Chagiga d'Af Chavdalet, vingt-quatre, nous commençons les dix dernières lignes de d'Af Chavgim et la Moudbet. La Gemara continue de nous expliquer notre Mishnah, où nous avons vu les différences entre Kodesh, c'est-à-dire les korbanot, les aliments d'un korban, d'un sacrifice, donc de la viande, des farines, du vin qui était destiné au Bet Amigdash, et entre la Terouma, c'est-à-dire ce prélèvement qu'on donne au Kohen de toute récolte qui a poussé en Eretz Israël. Il y a des degrés, comme nous avons vu, il y a Choulin, Maaser, Terouma, Kodesh, et le dernier c'est Khatat. La Mishnah nous a donné 10 ou 11 Maalot, comme nous l'avons vu, ça dépend comment on explique la deuxième Maala, la première Maala. Entre autres, nous avons vu une différence entre Kodesh et entre Terouma. La différence de la Keli Metzaref Mashebetocho, la Kodesh Avalo la Terouma. Le Keli, un ustensile, va associer ce qui se trouve à l'intérieur, la Kodesh, pour Kodesh mais pas pour Terouma. C'est-à-dire, nous avons un Keli, il y a à l'intérieur plusieurs petits pains de Terouma, destinés au Kohen. Une impureté touche un pain. Le pain est lui-même impur, mais les autres pains ne sont pas impurs. Sauf si le pain touche le pain qui se trouve à côté. Et donc, si un reptile mort a touché un pain, le reptile est avatouma, le pain est rishon, celui à côté est sheni, et le troisième sera shlishi. Pour la terouma, on s'arrête là. Les autres pains ne sont pas impurs. La Kodesh, si c'était des morceaux de viande ou des pains de menachot, d'offrande, et que un reptile touche un pain, tous les pains qui se trouvent dans le même keli sont impurs. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un keli en terre cuite, parce que là nous avons une autre halakha. Dès que le sheretz rentre à l'intérieur, il rend impur le keli, et à ce moment-là, le keli rend impur tous les aliments qui se trouvent dedans, même si c'est de la terouma. Mais là, on parle du cas où c'est un keli qui ne soit pas d'impureté de l'intérieur, ça ne touche pas les parois. Donc, une source d'impureté a touché un pain. Pour la Kodesh, tout est impur. Mena Nemile demande la Gma d'où est-ce qu'on sait. Amar Rafranin, Rafranin nous dit d'Amarkra, la Torah nous a dit à propos des korbanot, des Nesi'im, des chefs de tribu, c'est marqué Kafachat Asara Zahav Melea Ketoret. Une cuillère Asara Zahav d'un poids de 10 de Zahav, d'or. Mêlée à Ketoret, la cuillère était pleine de Ketoret d'encens. Puisque c'est marqué Mêlée à Ketoret, Kafachat Mêlée à Ketoret, on apprend de là à Katouv, à Saoul et Kolmachébe Kafachat. La Torah a rendu tout ce qui se trouvait dans la cuillère Achat 1. Donc toute la Ketoret ne forme qu'un seul morceau. Et si une source d'impureté, une impureté a touché une partie, tout est impur. Metiv Ravkana, Ravkana object. C'est marqué aussi Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a rajouté. Nous verrons par la suite sur quoi il a rajouté. Rashi nous le rapporte. Rabbi Shimon ben Betera a témoigné que la cendre de Khatat de Paradouma, si un homme tamé a touché la cendre de la Paradouma, il a rendu impur toute la cendre. Eh bien, Rabbi Akiva rajoute et dit pas seulement la cendre de Khatat de la Paradouma, mais aussi à Solet, les farines, va Ketoret, les encens, va Levona. Là, c'était aussi une herbe, une encens. Va Gechalim. Et les braises. Les braises servaient au Bet Amigdash. Im naga tvulium be miktsato pasalet kulo. Si un tvulium, donc un homme qui vient de se tremper dans un migvé, est tvulium. Et nous savons que le tvulium est possède la terouma. C'est-à-dire, le tvulium a un statut de chéni pour la terouma. Il a aussi ici un statut d'impur par rapport à Solet, Ktoret, Levona, Gechalim, qui servent au Bet Amigdash, c'est Kodesh. Et donc le Tvulium qui a touché Bimiktsato une partie, Pasalet Kulo, il a rendu impur le tout. Veha, de Rabbanani. Est-ce que nous rajoute Rabbi Akiva, hein, qu'il est possède le tout, ce n'est que Mide Rabbanan, ce n'est pas Mina Torah. Donc toi, Rafranin, tu viens nous dire que la Torah considère que tout ce qui se trouve dans le même récipient, dans la même cuillère, dans le même keli, la Kodesh, forme un. Nous voyons que d'après Rabbi Akiva, c'est juste une halakha midé Rabbanan. D'où est-ce qu'on voit des mots de Rabbi Akiva que c'était Rabbanan? Mimai. Il a mis des katanerecha, puisque c'est marqué au début, et Rabbi Shimon mettera le fer hatat shnagata, mais bimiksato shtimet kulo. Puisque c'est marqué juste avant que Rabbi Shimon mettera à témoigner que Efer Khatad, la cendre de Paradouma, lorsqu'un homme tamé, un homme impur a touché une partie, il a rendu impur le tout. Vekatane, et c'est marqué aussi, Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva rajoute. Donc Rabbi Akiva, ce qu'il rajoute, sur Rabbi Shimon ben Betera. Mais le din de Rabbi Shimon ben Betera, il est évident qu'il n'est que Midera Rabbanan. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que le pasouk de Rav Hanin ne nous parle que Bakodesh, c'est-à-dire que les korbanot. Mais pour Khatat, ce n'est pas marqué dans le pasouk. Donc lorsque Rabbi Shimon ben Betera nous a témoigné faire Khatat, il est évident que même d'après Rav Hanin, ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Si Rabbi Akiva vient rajouter Solet, Toret, Levona, Gichalim qui sont Kodesh, il rajoute sur une halakha Midera Banan. Si le premier Tana rapporte une halakha Midera Banan et qu'on vient rajouter, on rajoute dans le même contexte Midera Banan. Donc nous avons une question sur Afranin qui a dit que c'est Minatora. Amar Resh Lakish, Mishum Bar Kapara, Resh Lakish, nous dit au nom de Bar Kapara, Lo Nitzrecha Ela Leshayare Mincha. Ce que nous a enseigné Rabbi Akiva, que c'est Midera Banan, c'est pour les restes de la mincha. C'est-à-dire les shiraim de la mincha. Une offrande, lorsqu'on apportait au Beth Amikdash, on prenait une partie qu'on brûlait sur le misbiach, et le reste, c'était Sheyare Mincha, qui était mangé par, généralement, les Kohanim. Donc, Deoraita Tsarich Lekli Akli Metzarvo. Donc, puisqu'il s'agit des Sheyare Mincha, des restes, eh bien, on va dire la chose suivante. Minatora, dans quel cas nous a dit Rav Hanin que ce qui se trouve dans le même récipient, tout s'associe, c'est seulement « atzarich lekli », c'est-à-dire ce qu'on a besoin d'un keli. Et pour toute chose, on a besoin d'un keli. Pour une mincha, nous avons besoin d'un keli d'abord, puisque généralement la mincha, on devait la mettre dans un keli charrette, un ustensile au Beth Amikdash. Ensuite, on devait prendre une kmitza, une partie, poser la kmitza dans un keli charrette, ensuite aller le brûler. Mais les shiraim, dire les restes, ensuite on pouvait les enlever du keli charrette. Donc la halakha du keli charrette, c'est une halakha dans les dinim de Kodashim. C'est seulement pour la mincha elle-même. On a besoin du keli. Donc là, le keli, puisqu'on a besoin de lui, il associe tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais chez nous, c'est les keli. Mais les shiarim, lorsqu'on a terminé, on a déjà prélevé que maintenant on n'a plus besoin du keli, qu'on pourrait très bien donner les farines, tout dans les mains du Kohen. Eh bien, un keli metzarfo. Là, le keli n'associe pas puisqu'on n'a pas besoin de lui. Et Vatoura Banan, et là, les chachamim sont venus, Vegazrou, ils ont dit, on décrétait d'Afalgav de notre cercle clic et les Metsarfo, que même si on n'a plus besoin du Keli, le Keli va les associer. Et donc maintenant nous avons compris Rav Hanin qui parle d'une cuillère dans laquelle il y a de la Ktoret, que la Torah associe tout ce qui se trouve à l'intérieur et que ça ne forme qu'une seule chose. Ça c'est lorsqu'on a besoin du Keli. Donc la Mincha elle-même au début, mais chez Ari Mincha les restes, on n'a plus besoin du Keli. Là le Keli n'associe pas le tout comme un seul morceau. Ce n'est qu'une xéra des rabbanan. C'est ce que Rabbi Akiva vient dire. Ehid, Rabbi Akiva Sif, Rabbi Akiva vient rajouter sur Rabbi Shimon ben Betera. Seulement continue la Gemara Tinar Solet. Ce que tu viens de nous dire, c'est valable pour la solette, les farines, puisqu'il y a un début et il y a des shiarim, des restes. Et pour les shiraim, on n'a pas besoin de keli. Mais ktoret, l'ulvona, maïka, lemima, la ktoret et la levona. On a besoin du keli pour la ktoret, pour la levona aussi. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, kigon shet savran abe kartabala. On parle dans le cas où il a mis la ktoret, où il a mis la levona sur kartabala. Rashi nous dit kartabala, c'est une peau qui a été bien bien bouillie, et cette peau, c'est durci, et c'est comme, on va dire, comme un keli. Deoraita minatora, yesh lotoch metzaref en lotoch eno metzaref. Là on revient, on va répondre. Rav Hanin qui a dit que tout ce qui se trouve dans le keli s'associe et devient un seul morceau, c'est seulement lorsqu'il y a un creux, un toch. C'est-à-dire que le keli contient. Il y a des rebords et ça contient. Mais un morceau de peau qui est plat, qui n'a pas de tort, ça ne devrait pas associer. Vatou Rabbanan et Chamim sont venus, Vetikno, et ont institué d'Afargav de Notor Metzarev. Même s'il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de rebord, on ne peut pas dire que le Keli contient, puisque c'est posé dessus, c'est plat, eh bien, c'est malgré tout Metzarev. Et ça, c'est ce que nous dit ici Rabbi Akiva. Donc on répond, Rav Hanin et Rabbi Akiva, C'est vrai que lorsqu'on met plusieurs choses dans le même keli, minatora, le tout s'associe, ne forme qu'un morceau, même si ça ne se touche pas, mais c'est dans le même keli. Mais ça, ça dépend. Ça dépend si on a besoin du keli, comme l'agma a voulu nous dire au début. Bien, ça dépend s'il y a des torts, c'est-à-dire des rebords sur le keli. Lorsqu'il n'y a pas de rebord, ça c'est une takana de Rabbanan, et c'est Rabbi Akiva qui nous le rajoute. Et la Gemara termine, nous dit, ou pligé de Rafranin à de Rabriya Baraba. Rafranin est en machloket avec Rabbi Chiya Baraba. Pourquoi? Parce que d'Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chiya Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, mais douto shel Rabbi Akiva nishnit mishnazo. Que notre Mishnah a été enseignée après le témoignage de Rabbi Akiva. Donc ça voudrait dire que notre Mishnah ou le Keli Metzarev Mashbetocho, la Kodesh, comment Rabbi Chiya Baraba l'a compris? Comment Rabbi Chiya l'a compris cette Mishnah? Il l'a comprise d'après Rabbi Akiva, c'est-à-dire seulement Midirabanan. Et Rav Hanin nous a rapporté un pasouk sur la Mishnah. Donc la Gemara conclut, Rabbi Chiya Baraba n'est pas d'accord avec Rav Hanin. Donc nous avons terminé une autre Mahala. Lorsque nous avons un Keli, plusieurs aliments de Korbanot à l'intérieur, et que une impureté touche un aliment, un morceau de viande, une farine, un petit pain de Kodesh, tout devient impur puisque le Keli associe le tout. Donc est-ce que c'est Midirabanan ou Midoraita? C'est effectivement une Mahloket. Une autre halakha que nous avons vu, notre Mahala Riviy Bakodesh Pasoul. Nous avons vu que dans les degrés d'impureté, la source d'impureté, le reptile mort, est Avatouma, le père. Lorsque le reptile va toucher par exemple un homme ou un Keli, prendre le cas d'un Keli, le Keli devient Rishon. Le Rishon communique un aliment Sheni. Cet aliment pourra communiquer Shlishi. Mais la Teruma, on s'arrête Shlishi. On ne continue pas Revi. Donc le Shlishi est appelé Pasoul. Pourquoi Pasoul? Parce qu'il ne communique pas l'impureté. Alors que Revi, le Shlishi est appelé Tamé. Parce qu'il communique l'impureté à un quatrième. Et le quatrième est appelé Pasoul. Donc on doit retenir le terme Tamé. Dire il est impur et il communiquera encore. Ou Pasoul, il est impur mais il ne communique plus. La Mishnah nous a donc enseigné que le quatrième Revi Bakodesh est Pasoul, alors que pour Teruma, ce n'est que le troisième. Tanya Amar Rabbi Yosef nous dit, Minaim le Revi Bakodesh ou Pasoul, d'où est-ce qu'on sait que le quatrième Bakodesh est lui-même impur? Il ne communique pas, mais lui est Pasoul impur. Vedinu, nous dit la Gemara, il y a là un raisonnement de Kal Vachomer, la plus forte raison. Uma Mechusar Kippourim. Nous avons une halakha Mechusar Kippourim. Aussi, la Gemara nous donne beaucoup de données, beaucoup de notions. Mechusar Kippourim, c'est un zav, donc un homme impur, un zav ou un metzora, qui doit attendre 7 jours de pureté. À la fin de ces 7 jours, il doit apporter un korban le 8e jour. Quel est le din du zav? Il va se tremper le 7e jour. Une fois qu'il s'est trempé, il est appelé Tvoulium, il attend la tombée de la nuit, il a eu Erev Shemesh, il est pur maintenant. Mais il doit apporter ses korbanot le lendemain, le 8e jour. Tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot, il est appelé Mechusar Kippourim. Il lui manque la kapara. De même, le Metzora a aussi le même statut, il doit attendre ses korbanot. Il y a Mechusar Kippourim pour une Yoledet, pour une Zava, une femme qui a couché, une Zava. Non, chaque fois qu'on a après une période d'impureté, il y a un besoin d'apporter un korban le 8e jour. Avant d'avoir apporté le korban, on s'appelle Mechusar Kippourim, même si on est pur, on a été au migvé, il ne manque plus que le korban. Donc nous dit Rabbi Yossi, Uma Mechusar Kippourim, si déjà le Mechusar Kippourim moutar bateruma, cet homme-là, le Zav, le 7e jour au soir, après s'être trempé dans un migvé, après avoir attendu la tombée de la nuit, il peut manger de la terouma. Mais attention, il n'est pas sous le Bakodesh. Il ne pourra pas toucher le Kodesh, parce qu'il lui manque ses korbanot. Mais pour ça, comme ça, on l'apprend des versets. Shlishi, donc le Shlishi, qui est pas sous le Bateruma, puisque nous savons que le Shlishi, lui-même, on ne peut pas le manger si c'est un morceau de terouma Shlishi. Et Nodin, chez assez révi la Kodesh, mais ce n'est pas la plus forte raison qu'il pourra faire révi la Kodesh, un quatrième la Kodesh. C'est-à-dire, on apprend du Kal Vachomer. Si le Revi'i, si le Mechusar Kippourim, il est permis Beteruma, mais il est possède Bakodesh, donc le Shlishi, qui n'est que possède Bateruma, il ne va pas plus loin, donc il ne rend pas, il ne communique pas plus l'impureté, n'est-ce pas qu'il communiquera au moins la Kodesh? Et Rashi nous dit, on ne pourra pas dire Dayo, le principe de Dayo, parce que, de toutes les manières, Shlishi, on le sait déjà. De toutes les manières, on ne dit pas d'ayo dans des dinim de Rabbanan. Donc maintenant, nous avons un kalvachomer et on sait que le shelishi communiquera revi'i la kodesh. Velamadnu, et donc on a appris, nous dit l'agma, shlishi la kodesh mina Torah. Que le shlishi mina kodesh, on apprend mina Torah. Nous allons voir d'où est-ce qu'on sait. Verevi'i, et le quatrième, c'est-à-dire le quatrième degré d'impureté, quatrième impur, et mi kalvachomer, on apprend du kalvachomer. Shlishi la kodesh mina Torah, d'où est-ce qu'on sait, minaim dirtiv, c'est marqué, va basar asheriga bechol tamé lo yochal. La Torah nous dit, et de la viande, qui aura touché kol tamé, tout ce qui est impur, lo yachen ne pourra pas être mangé. Que signifie bechol tamé? Milo askinan de naga becheni, nous dit la Gemara, n'est-ce pas, qu'on peut dire, de la viande d'un korban qui a touché kol tamé, tout ce qui est impur. Sheni est aussi impur. Sheni est impur puisqu'il communique aussi l'impureté. Il n'est pas pasoul, il est impur, il communique l'impureté. Donc ici, la Torah nous dit, de la viande qui a touché bechol tamé, tout tamé, donc sheni, lo yachel ne pourra pas être mangé, vekamar mana lo yachel. Donc on voit qu'un morceau de korban qui a touché un sheni, deuxième, c'est-à-dire le sheni lui avait touché un rishon qui avait touché la source d'impureté, le avatuma, le reptile mort, ou un homme qui avait touché un mort. Donc le keli est devenu rishon. L'aliment chéni, et si cet aliment a touché un morceau de viande, donc la viande qui a touché tout tamé, chéni est tamé, eh bien, ne pourra pas être mangé. Là, nous avons vu que shlishi bakodesh est tamé, on ne pourra pas le manger. Si nous savons que shlishi bakodesh ne peut pas être mangé, grâce au kalvachomer, nous apprenons le revi, mi kalvachomer, hadamran, c'est ce que nous avons dit. Donc là encore, la Gemara nous a expliqué rapidement le din de shlishi Bateruma et Revi Bakodesh. La Gemara continue au Bateruma, Im Nitmet. Là, nous avons vu dans la Mishnah un cas assez particulier. Dans la Mishnah, c'est marqué Im Nitmet Achat Miyadav, Chaverta Teora pour la Teruma. Il a rendu impure une main est devenue impure, la seconde reste pure. Il y a parfois une impureté qui ne rend impure que la main. Parfois, il y a une impureté qui rend impure tout le corps. Mais il y a des impuretés qui ne rend impur que la main. Touma de Rabbanan. Par exemple, il a touché un sefer qui va kodesh, rend impur la main. L'autre main n'est pas impure la teruma. Mais la kodesh, c'est marqué madbil shteem. Il doit tremper les deux mains. Tremper les deux mains dans un mikveh. Pourquoi? Puisqu'il doit les purifier les deux mains. Et la Mishnah continue parce qu'une main rend impur l'autre main, bah kodesh, mais pas pour teruma. Alors l'agma va nous expliquer ce din. Ama Rav Shizbi, Bechiburin Shanu. Rav Shizbi nous dit, dans quel cas une main rend impure l'autre, c'est lorsque, on a dit la Kodesh, un homme a sa main droite qui est impure. Avec sa main gauche, il touche un aliment de Kodesh. Si maintenant, il touche de sa main droite sa main gauche, là il va rendre impur la main gauche et l'aliment de Kodesh. Pourquoi? Parce qu'au moment où il rend impur sa main gauche, il touche un aliment de Kodesh. C'est ce qu'on appelle Bechiburim, c'est-à-dire c'est encore lié. Chibur, il touche le Kodesh avec la main qui est pure, mais il touche maintenant la main pure par la main impure, là il l'a rendu impur. Amar Rav Shizbi bechiburim shanu, aval shlo bechiburim lo. Mais si un homme touche par sa main droite qui est impure la main gauche, mais que ensuite, lorsqu'il a lâché la main gauche va toucher un aliment de Kodesh, l'aliment de Kodesh n'est pas impur. La raison pour laquelle on ferait une différence, c'est bechiburim, dire au moment où on touche l'aliment ou pas, c'est que lorsqu'on touche l'aliment, donc on craint que la main droite va toucher l'aliment directement et va le rendre impur. Donc c'est pour cela que peut-être l'impureté n'est que bechiburim. Dire la main droite touche la main gauche alors que la main gauche touche un aliment, l'aliment est impur parce qu'on craint que tu vas toucher l'aliment directement. Mais si la main gauche ne touche pas maintenant l'aliment, peut-être que la main droite ne rend pas impur la main gauche. Et il va abayer, abayer va objecter, c'est marqué Yad Neguva, Metama, Chaverta, Letame, la Kodesh. Si c'est Kodesh, une main, même si elle a été séchée, nous verrons qu'est-ce que cela signifie, qui touche l'autre main, rendra impure la main, Letame, la Kodesh, pour rendre impur un kodesh, c'est-à-dire pour faire un revi'i bakodesh, un quatrième. Avallo la teruma, mais pas pour de la teruma. Divre Rabbi sont les paroles de Rabbi. Rabbi Yosef et Rabbi Domer lifsol. C'est-à-dire que la main pourra être possède l'aliment, mais l'aliment deviendra donc shlishi, mais ne pourra pas, l'aliment deviendra comme un revi'i bakodesh, c'est-à-dire l'impureté s'arrête là, mais il ne pourra pas communiquer un revi'i. Donc ici, nous avons une machloquette entre Rabbi, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Un homme qui a sa main droite impure touche sa main gauche qui est pure. D'après Rabbi, la main gauche qui touche un aliment le rendra shlishi, et cet aliment qui touchera un autre le rendra revi'i. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, l'aliment qui a été touché par la main gauche est, on veut dire, revi'i, il s'arrête là. Il n'y a pas d'impureté, on ne va pas rendre impur un autre aliment. Alors la Gemara essaye de comprendre ce qui vient d'être dit. Et Amarta Bishlamash le Bechiburim, si tu dis que le din, qu'une main rend impure l'autre main, c'est même lorsque ce n'est pas lié à une oribute de Neguva. C'est là où on comprend le ridouche de la main qui est sèche. Et là, Yamarta Bechiburim, inch le Bechiburim lo, mais si tu dis que c'est seulement lorsque c'est lié, Maiributa de Neguva, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner parce que la main est sèche? Donc là, la Gemara va nous expliquer un point très important dans cette machloquette de Rabbi, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Tout d'abord, on précise encore une fois que lorsque une main touche une source d'impureté, minatora, un reptile mort, il est évident que tout le corps est impur. Là, on parle du cas où la main a touché une impureté, midérabanane, et donc la main ne va pas rendre impur tout le corps, il n'y a que la main qui est impure, et la main va avoir le statut de chéni. Le second qui pourra rendre un shlishi. Là nous dit la Gemara. Il est vrai que si la première main qui est impure était mouillée, donc à ce moment-là, le liquide qui se trouve sur la première main a un statut particulier puisque nous savons que tout liquide, même s'il touche un shéni, un second, il devient rishon. Et donc si la première main est mouillée, lorsqu'il va toucher maintenant sa main droite, la main gauche, et que la main gauche va toucher le liquide, c'est-à-dire l'eau qui se trouve sur la main droite, là la main gauche devient automatiquement impure, puisque c'est un rishon maintenant l'eau qui touche la main, ça devient chéni. Alors nous dit la Gemara, si on dit que la main, la première main, peut rendre impur la seconde, et que la seconde rendra impur un aliment, même si ce n'est pas au même moment, ce n'est pas lié. Donc on va rendre la seconde main chéni. Là nous dit la Gemara, je comprends ce que tu me dis, que même si la première main est sèche, elle rend impur la seconde. C'est-à-dire quel est le ridouche? Bien que, si elle était mouillée, je comprends qu'elle rend impur la seconde. Mais là elle est sèche, elle ne devrait pas rendre impure la seconde, mais tu vas me dire qu'elle rend impure la seconde, et la seconde, maintenant, lorsqu'elle va toucher un aliment, l'aliment deviendra impur. Mais si tu me dis que la main droite ne rendra impure la main gauche pour rendre impur un aliment de Kodesh seulement, si au moment où la main droite touche la main gauche touche à ce moment-là un aliment de Kodesh, alors pourquoi on va dire seulement dans ce cas-là, et pas dans un autre cas? Quelle est la différence si on dit Bechiburim ou pas? C'est-à-dire pour quelle raison l'agma voulait dire Bechiburim? Parce que si c'est Bechiburim, on craint qu'avec la première main, tu vas toucher même l'aliment de Kodesh. Si tu crains cela, il n'y a pas de différence si c'est mouillé ou pas mouillé la première main. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, si tu touches, tu le rendras impur, puisque cette main est chéni et elle va rendre l'aliment au minimum shlishi. Donc l'Agmara nous dit, il n'y a plus de ridouche si la main, la première, est sèche ou n'est pas sèche. Si encore la main peut rendre impure la main droite, peut rendre impure la main gauche, même si l'aliment n'est pas touché au même moment. C'est donc une halakha que la main droite touche la main gauche. Que même si elle est sèche, on va dire, elle la rend impure quand même. C'est un chidouche. Donc là, je comprends que tu viens me dire, même si elle est sèche, elle la rend impure. Mais si toute l'impureté ne se fait que bechiburim, donc à ce moment-là, pourquoi elle ne se ferait que Bechiburim Et là, Rashi va expliquer plus haut, de peur que tu vas toucher directement le Kodesh. Donc si tu vas toucher directement le Kodesh, là, il n'y a pas de différence si c'est mouillé ou pas. Donc pourquoi nous préciser que la main est sèche? Hitmar Namé, la Gemara nous rapporte une autre machloket. Amar Resh Lakish nous dit, Lo Shano Ela Yado, Aval Yad Chavero Lo. Resh Lakish nous dit, lorsque la main droite est devenue impure par une impureté, Midirabanan, elle peut rendre impure la main gauche, seulement sa propre main. Aval Yad Chavero, mais si elle veut rendre impure la main d'un autre, Lo, c'est impossible. Ferabi Yochanan, Amar Echad Yado Vechad Yad Chavero, Rabbi Yochanan nous dit, pas seulement que la main droite peut rendre impure la main gauche, mais la main droite peut rendre impure une autre main, la main de son ami, à condition que ce soit bien sûr la main droite qui est touchée de l'impureté, Midirabanan, qui touche la main de son ami, et qui à ce moment-là, l'ifsol, rendra l'aliment qui a été touché par cette deuxième main, que ce soit la sienne ou celle de son ami, l'ifsol pour rendre pasoul l'aliment, mais l'aliment lui ne communiquera pas l'impureté par la suite. Avalolétami. Et l'agma nous dit, Mimai, d'où est-ce que tu sais cela? Midekatane sefa, puisque c'est marqué dans la suite de la Mishnah, Shayad metama chaverta la kodesh avalolateruma. C'est-à-dire, l'agma nous dit, d'où est-ce qu'on sait que la main de son ami deviendra aussi impure? C'est-à-dire, un homme a touché une impureté midirabanan, sa main est impure, il touche son ami, sa main aussi devient impure. D'où est-ce qu'on sait? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, parce que dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Shayad metama chaverta la kodesh, parce qu'une main rend impure l'autre, la kodesh avalola teruma. La main rend impure chaverta, c'est-à-dire son ami, c'est-à-dire une autre main, la kodesh pour kodesh avalola teruma. Eh bien, Rabbi Yochanan s'étonne à tout la mali. Pourquoi la Mishnah répète? Parce que la main rend impure. Attendez les Récha, nous venons de voir que Bakodesh, si une main est impure, la deuxième est aussi impure, alors que la Teruma, elle n'est pas impure, la deuxième. Donc attendez les Récha, elle la lave. Donc tu peux déduire de là pourquoi la Mishnah répète Shma Mina Latouye Yatravero, pour inclure Yatravero, la main de son ami. C'est-à-dire que la Mishnah répète Shayad Metame Chaverta pour dire que la main impure pas seulement va rendre impure l'autre main, mais peut rendre aussi impure la main de son ami. Et nous dit la Gemara Vav Resh Lakish Adarbe, Resh Lakish est aussi revenu sur ce qu'il avait dit. Resh Lakish avait dit à travers Olo. D'où est-ce qu'on sait que Resh Lakish est revenu là-dessus? D'Amar Abiona, Amar Abami, Amar Resh Lakish, Echad Yado, Echad Yatravero, aussi bien sa main que la main de son ami. Donc la main droite a touché une impureté, Midirabanan. La main droite peut communiquer l'impureté à la main gauche ou bien à la main de son prochain. Dire si c'est la main droite qui touche la main de son ami, à ce moment-là, elle deviendra impure. L'ifsol, et cette main pourra communiquer l'impureté à un aliment. Et cet aliment sera pas soul, on ne pourra pas le manger. Mais l'aliment ne pourra pas communiquer par la suite l'impureté à un autre. Donc là, nous avons appris plusieurs dinim dans Kodesh. Un homme dont sa main a touché une impureté, Midirabanan, sa main a un statut de Chéni, lorsque sa main va toucher l'autre main, nous avons vu que même si c'était pas Bechibourim, puisque c'était la question ici de Abayé, même si ce n'est pas Bechibourim, même si la main gauche ne touche pas un aliment Kodesh, mais la main droite touche la main gauche devient impure, et si ensuite la main gauche touche un aliment, eh bien l'aliment deviendra lui aussi Pasoul, on ne pourra pas le manger si c'est Kodesh, mais l'impureté s'arrête là. Pas seulement si la main droite touche la main gauche, mais même si la main droite touche la main de son prochain. Et la Gemara continue, Velifsol, Avalolétametanaï. Mais ce que nous venons de dire, que la main rendra impur un aliment, mais que l'impureté s'arrêtera là, et il n'y aura pas un quatrième, c'est-à-dire une autre impureté, Tanaï, c'est en soi une marloquette Tanaï. Netna, nous avons une Mishnah qui nous dit, Kolaposel, Bateruma, Metameyadaim, Liot, Shniot. Tout ce qui possède la terouma. Nous avons beaucoup de dinim, début de Masrech Shabbat, tout ce qui possède la terouma. Prenons un exemple très simple, un sefer. Une Megillah ou un sefer Torah, le din est que les chamim ont décrété que c'est possède la terouma, puisque les gens avaient l'habitude de cacher leur terouma à côté de leur sifra Kodesh. Ils disaient que ça c'est Kodesh, et le sefer Torah c'est Kodesh. tous leurs livres étaient on avait des parchemins, des rouleaux, donc ils cachaient leur terouma avec. Et les achbarim, les rats, lorsqu'ils venaient manger la terouma, ils mangeaient aussi des livres. Alors les chamim m'ont dit, les livres vont rendre impurs. Même un livre, même un Sefer Torah va rendre impur la terouma. C'est une impureté, évidemment, mais des rabbanins, Sefer HaKodesh n'est pas impur. Donc quand la possède la terouma, tout ce qui possède la terouma, metame yadaim, rendra impur les mains, liyot shiniyot, et les mains vont avoir un statut de shiniyot, de second, c'est-à-dire second la touma. Et c'est marqué yad, metame chaverta, une main rend impur une autre, yivra biushua, vechachamim omrim, les chamim nous disent yadaim shiniyot en, les mains sont shiniyot, sont secondes, ven sheni yose sheni, et sheni ne fait pas de sheni, c'est-à-dire une main ne rendra pas l'autre main sheni. Donc, comment comprendre cela? Maïlav, quelle est leur machloquette ici? Rabbi Yeshua dit que la main sera shniya et la seconde sera aussi impure si elle a été touchée par la première. Les chamim disent non, les mains sont sheni, en sheni yose sheni. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, nous dit la Gemara, on comprend ainsi. Maïlav, sheni ou de lo avid, ashlishi avid. C'est que la machloquette entre Rabbi Yeshua et les chamim est la suivante. Les chachamim ont compris de Rabbi Yeshua que si la main droite qui est sheni, second, a touché la main gauche, à ce moment-là, la main gauche devient aussi sheni. Et les chachamim vont dire non, la main qui a touché l'impureté, elle est sheni. Sheni ne peut pas faire encore un sheni. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas faire sheni, mais elle fait shlishi, shlishi avid. Et quelle est la conséquence si la deuxième main est sheni ou shlishi? C'est que si la deuxième main est sheni et qu'elle touche un aliment de Kodesh, l'aliment de Kodesh est Shlishi. S'il est Shlishi et qu'il touche un autre aliment, il deviendra Revi'i. Donc il n'est pas seulement Possel, il est Metame. Mais si on dit que la deuxième main est Shlishi, à ce moment-là, lorsque la deuxième main touche un aliment, l'aliment devient Revi'i et ça s'arrête là. Donc voici la machloquette, Rabbi Shoy Chachamim. La Gemara dit non. Dilma, lo sheni avid velo Shlishi. En vérité, les Chachamim ont dit les mains sont Shniot. Et elles ne peuvent pas rendre ni sheni ni shlishi. C'est-à-dire que les chachamim sont en machloket sur la ma'ala que nous avons vu dans la Mishnah. D'après les chachamim, une main impure ne peut pas rendre l'autre main impure. Mais celui qui pense qu'une main impure peut rendre une autre main impure, peut-être que l'autre main sera sheni et qu'à ce moment-là, l'aliment sera shlishi qui pourra faire un revi'i. Donc nous n'avons pas de preuve que c'est une machloket tanaïm. Et là, qui en est tanaïm, nous dit la Gemara si. Nous avons une machloket tanaïm. Est-ce que la deuxième main qui touche un aliment kodesh, cet aliment kodesh deviendra shlishi, pourra communiquer un revi'i ou pas? Il deviendra revi'i. C'est une machloket de tanaïm. Yad neguva. Une main qui est sèche. Metama et traverta le tamé bakodesh. Que nous avons vu la braïta précédente, la fin du Hamoud Aleph. Une yad, une main sèche, rendra impur et traverta l'autre main. C'est-à-dire même si la première est sèche, elle rend impure la deuxième main. Les tameba kodesh, pour rendre impur un kodesh. C'est-à-dire que l'aliment qui va être touché sera shlishi et pourra communiquer un revi. Il sera impur, il communiquera. Avalo la teruma, mais pas pour teruma. Des vrais rebis sont les paroles de rebi. Rabbi Yoseb, Rabbi Domer, ota yad lifsol avalo le tamé. Rabbi Yoseb, Rabbi Yuda nous dit, ota yad. Cette main-là, l'ifsol aval lo letame, elle ne pourra pas rendre shlishi pour faire un revi. Donc là, nous voyons que c'est une machloket. Est-ce que la main va rendre shlishi pour faire ensuite un revi ou seulement revi? Là, la Gemara continue. Donc là, ça, encore deux points faciles pour terminer notre Mishnah. Nous avons vu encore une des différences entre Kodesh et Teruma, c'est Ochlim, Ochlim, Neguvim, Yadaim et Soavot. On a vu qu'on pouvait manger des aliments secs avec des mains impures, c'est-à-dire des mains qui sont shniyot. Donc ça, on peut la Teruma, mais pas pour la Kodesh. Tanya Amar Abchanina ben Antignos, Abchanina ben Antignos nous dit, V'chiyesh Neguva la Kodesh. Abchanina ben Antignos pose la question, mais que signifie on mange des aliments Neguvim? Tout le din qu'un aliment, pour pouvoir devenir impur, doit d'abord être en contact avec de l'eau. C'est seulement pour toutes sortes d'aliments qui ne sont pas des korbanotes. Mais pour les korbanotes, il y a une halakha particulière qui s'appelle Chibat HaKodesh. C'est-à-dire, la Chiba, puisque ça appartient au Beth Amikdash, ça nous est cher. c'est chéri parce que ça vient du Beit Hamikdash. Cette ribat hakodesh est une halakha marcheratan, rend l'aliment apte à devenir impur même si l'aliment n'a pas touché de liquide. Donc si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on dit? On peut manger des aliments negouvim, des aliments qui sont seik, biedem, mesouavot, mais pas pour le kodesh. Mais le kodesh, même si l'aliment est sec, on n'a pas besoin que l'aliment soit sec, la kodesh. Même lorsqu'il n'a jamais été mouillé, eh bien, l'impureté peut se faire. Pour les autres aliments, une fois qu'ils ont été au contact avec de l'eau, même si ensuite on les a séchés, ils peuvent devenir impurs. Mais là, demande Agma, qu'est-ce que tu nous dis, Neguvim, c'est sec. C'est sec. La ribata kodesh est marcheret, même si ce n'est pas, même si ça n'a jamais été mouillé. L'Agma répond, l'otzricha, on parle dans le cas suivant. Kegon shetachav lo chavero letorpiv. On parle dans le cas où un homme a enfoncé dans la bouche de son ami. Oshetachav ou leatzmo ou lui-même s'est enfoncé un aliment bekouche ou bekarkar avec un fuseau ou avec une baguette. Donc lui n'a pas touché, il n'y a pas d'impureté. Mais celui qui mange a les mains impures, a les mains sales, on veut dire les mains impures. Ou bikesh, et maintenant il veut manger les holtznon ou batzel shel chulin imaem. Donc s'il a dans sa bouche, on lui a fait rentrer un morceau de kodesh. Et il veut maintenant manger, donc prendre avec la main un morceau de choulin, morceau de un oignon ou un radis de choulin, ben la kodesh gazrou be'ou on a interdit. La terouma lo gazrou b'rabanan, les chamim n'ont pas fait de xera. Quelle est la différence? Rashi nous explique. Ce qui est marqué dans la Mishnah Neguvim, il ne s'agit pas des aliments kodesh. C'est que la Mishnah fait allusion à d'autres aliments qui sont choulin, qui peuvent devenir impurs. Donc les inyan, terouma, les chachamim n'ont pas fait de gzera. Les inyan kodesh, les chachamim ont fait gzera. Pourquoi? Rashi nous explique. C'est vrai que les mains qui sont shniot, puisqu'on a vu que des mains mesouavot ont un statut stam yadaim shniot. Si ces mains touchent des aliments choulin, ne les rendent pas impurs, puisque choulin ne peuvent pas devenir impurs par stam yadaim. Mais malgré tout, les chachamim ont dit, tu ne vas pas manger ces aliments choulin avec du kodesh. Pourquoi? Peut-être que tu vas toucher avec tes mains les aliments kodesh. C'est-à-dire, toi, tu veux prendre l'aliment de choulin, le mettre dans ta bouche, mais tu as en même temps dans la bouche un aliment de kodesh que toi, tu n'as pas mis dans la bouche, que tu ne pouvais pas le mettre. Si tu l'avais mis dans la bouche, tu aurais déjà rendu impur. Mais on craint, si tu vas maintenant prendre un morceau d'oignon, un morceau de radis, que tu vas toucher en même temps l'aliment de kodesh. Donc, on t'interdit de manger avec des mains qui sont mesouavot, dire deux aliments. Mais l'inyan terouma, c'est vrai que si la main est donc impure, elle va rendre impure la terouma. Mais on n'a pas fait de xéra. On a dit un homme va faire attention et ne va pas toucher. Et donc maintenant l'explication de la Mishnah est la suivante. On peut manger ochlin choulin, c'est-à-dire des aliments qui sont choulin, sans aucune kedusha avec les mains mesouavot qui ne sont pas pures, avec de la terouma. Parce qu'on ne craint pas qu'en mangeant l'aliment choulin, tu vas toucher la terouma. Mais tu ne peux pas avec kodesh. Et donc, ce qui est marqué neguvin, ce qui est sec, nous dit Rashi, ce n'est pas marqué à propos de la terouma ou à propos du kodesh. Parce que le kodesh n'a pas besoin ni d'être mouillé, ni d'être séché par la suite. Mais Rashi nous dit, et ça c'est le dernier chidouche que nous enseigne ici Rashi, que si l'aliment était humide, à ce moment-là, lorsqu'il va toucher l'aliment choulin avec ses mains qui ont un statut de chenille vont rendre le liquide richon, puisque nous avons une règle, c'est que le liquide devient immédiatement richon. Et à ce moment-là, le liquide va rendre l'aliment choulin, l'aliment provin qui n'a aucune kedusha chenille. Et lorsqu'il va mettre dans la bouche l'aliment chenille, avec de la terouma, le chenille va rendre la terouma shlishi. Et donc, on est obligé de parler dans un cas où ça a été donc essuyé. Puisque ça a été essuyé, il n'y a pas de liquide. Il n'y a pas de liquide, donc il ne peut pas y avoir d'impureté. Le seul problème, c'est que peut-être il va toucher avec ses mains l'aliment de Kodesh. Il peut peut-être aussi toucher l'aliment de Terouma, mais pour Terouma, on considère qu'il va faire attention. Pour Kodesh, on a été plus marmire. Et nous terminons avec la dernière xéra, dernière ma'ala que nous avons vue dans la Mishnah Aonen ou Mechusar Kippourim. La Mishnah nous avait dit qu'un homme qui a perdu un proche parent, ou le Mechusar Kippourim, c'est-à-dire celui qui attend ses korbanot, le Zav qui a terminé ses 7 jours, le lépreux qui a terminé ses 7 jours, il attend le lendemain pour ses korbanot, il doit d'abord se tremper dans un mikvé pour manger du kodesh, avallo la terouma, mais pas pour la terouma. Pour quelle raison, Maïtama? L'agma répond, pour quelle raison, après tout, il s'est déjà purifié. L'agma répond, kevan de adarshav, puisque jusqu'à présent, kevan da edna avait assiré, il avait l'interdiction d'en manger, atzrirun rabbanan tvila, les rachamim ont exigé qu'il se trempe dans un mikvé. C'est-à-dire, comme nous dit Rashi, le Mechusar Kippourim a le droit de manger de la terouma, mais n'a pas le droit de manger du Kodesh tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot. De même pour le Onen. Et donc, lorsque le Mechusar Kippourim ou le Onen vont se dire entièrement être purifié, il va apporter ses korbanot, malgré tout, bien qu'il a apporté ses korbanot, il doit maintenant se tremper dans un mikvé pour pouvoir manger du Kodesh, parce que sinon, étant donné qu'il a oublié, il ne mangeait pas de Kodesh ces derniers temps, il risque de ne pas avoir fait attention et de s'être impurifié. Donc là, nous avons terminé avec les Ma'alot, ce qu'il y a, Romer Bakodesh Maturma, et que ce sont des Dapim très difficiles, que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aide à bien les comprendre et à bien les reprendre et les saisir. Merot Alacha Daf Chav Dalet. Les serviettes qui ont l'habitude de se salir rapidement, comme les serviettes avec lesquelles on se lave les mains au moment des repas ou les torchons, nous avons le droit de les laver pendant Chol HaMoed si nous n'en avons pas suffisamment pour toute la fête. Étant donné que les serviettes, les torchons, nous avons l'habitude de les laver quotidiennement, même si on les avait lavées avant Chol HaMoed, nous avons besoin de les laver encore pendant Chol HaMoed. Mais des serviettes qu'on a l'habitude de changer une fois de temps en temps, une fois par semaine, on n'aura pas le droit de les laver pendant Chol HaMoed, on devra attendre après Yom Tov. L'interdiction de laver des habits, c'est même par l'intermédiaire d'un non-juif. Si un homme a donné des habits ou des ustensiles à arranger un ouvrier, un artisan avant Chol HaMoed, si on en a besoin pour Chol HaMoed, on a le droit de les ramener pendant Chol HaMoed. Mais si nous n'en avons pas besoin pendant Chol HaMoed, on ne pourra pas les reprendre pendant Chol HaMoed. Certains ont écrit la raison, puisque si on nous voit ramener de telles choses, on pensera qu'on les a données à réparer pendant Chol HaMoed.